Vous écoutez
RMC.
C'est un sport, à mon avis, qui est un sport d'adresse, qui est un sport d'habileté, de souplesse, d'intuition. C'est pas un sport de contact, le football.
Jusqu'à minuit, c'est l'afterfoot.
Si on veut pas de contact, on va jouer aux osselets, on va jouer à la pétanque, mais on joue pas au football.
C'est 11 mecs contre 11 mecs, et ça devient aussi une question de centimètres, tu vois.
C'est la beauté de ce sport, du football en particulier.
Gilbert Bribois.
Laure Payeur ce soir est avec nous, Jérôme Roten, Daniel Riolo, bien sûr une deuxième heure de l'after consacrée à Pape Diouf qui est donc décédé il y a quelques heures à Dakar. Avant d'avoir quelques invités avec nous, on attend Eric Dimeco, on devrait avoir également Mathieu Valbuena hein, d'ici minuit puisqu'il était un des joueurs emblématiques de la période Pape Diouf à Marseille. J'ai quelques infos à vous donner diverses et variées. Vous dire d'ailleurs à Marseille que l'OM s'est dit aujourd'hui prêt à mettre son centre d'entraînement et le stade Vélodrome à disposition si une campagne de test est mise en place pour lutter contre le coronavirus. Donc voilà ce que propose l'OM ce soir, donc mise à disposition du stade Vélodrome mais aussi de la commanderie, le centre d'entraînement si besoin. Sachez également que la FIFA aujourd'hui réfléchit à une aide pour le football mondial. Alors il faut savoir que la FIFA a un trésor de guerre de 1,5 milliard de dollars. Et qui donc la FIFA est prête à
la FIFA est prête à
mettre en place un plan donc d'aide, alors à voir sur quel terme. Enfin voilà la déclaration du jour de d'Infantino, le fameux trésor dont Sepp Blatter était très très fier. On a beaucoup parlé aussi de ces joueurs qui baissaient leur salaire ou en faisaient cadeau à leur club. Je vous donne juste une info liée à Tottenham. Tottenham a baissé les salaires du personnel, mais pas des joueurs. Le club fait savoir.
C'est scandaleux.
Le club explique qu'on a baissé de 20% les salaires du personnel administratif. On attend que les joueurs acceptent eux aussi, fait savoir le club. C'est quand même une façon.
Ah, de mettre un peu la pression.
Ah oui, évidemment. Oui. Voilà, avec les joueurs de Tottenham.
Bah, écoute, je trouve que c'est une bonne pression. Ça ne me gêne pas comme pression.
Et puis en Allemagne, la Bundesliga confirme son arrêt au moins jusqu'au 30 avril. Les Allemands, ils veulent absolument reprendre coûte que coûte, hein, le plus vite possible. Il y a certains clubs qui sont retournés à l'entraînement.
En France aussi, hein, tout le monde veut reprendre coûte que coûte. Alors on en parlera demain ce soir, tout a été chamboulé.
On n'a pas de clubs qui ont repris l'entraînement comme Dortmund, par exemple.
Non, ça c'est vrai, mais il n'empêche qu'en France, encore une fois, juste parenthèse, après on revient au malheureux sujet du soir, mais il y a la volonté chez tout le monde de considérer que ce sera possible de sortir du confinement fin avril et donc de pouvoir finir la saison en redémarrant mi-mai. C'est le programme des présidents français et du boss de la Ligue. C'est le programme. Je ne dis pas que ça va se faire, mais c'est l'idée.
Mais tu sais qu'en Allemagne, là, Gilbert, tu vas rebondir sur ce que Dortmund, c'est par petits groupes, hein, c'est vraiment des groupes restreints. Donc c'est des entraînements à deux ou trois joueurs.
Oui.
Voilà, quelques joueurs seulement. C'est comme si Valère Germain nous disait que lui il le fait dans le parc. Bah au lieu d'être tout seul, bah ils sont deux ou trois quoi. Est-ce que vraiment c'est ça qui te permet de garder la forme et d'anticiper une éventuelle reprise de l'entraînement? Moi du championnat, je pense que c'est pas du tout ça le cas. C'est que ils veulent s'en occuper au mieux, être au petit soin avec les joueurs. Les clubs de Ligue 1 pourraient très bien le faire. Aujourd'hui, c'est pas d'actualité, mais ça va l'être dans quelques jours, tu verras.
Ouais, tu veux dire le fait de leur dire, vous venez au centre d'entraînement et on se met en ordre
bien
de marche
sûr.
Pour pouvoir faire des
bien
trucs en respectant les règles sanitaires, quoi, en quelque sorte.
Exactement. Et comme disait Daniel, ils ont à l'arrivée tous les championnats ont envie de reprendre, ont envie de finir. Mais le problème, c'est que tu sais pas, et plus le temps avance et moins tu auras de temps pour finir le championnat. Donc
il y aura peut-être plus le temps avance et plus ils se rendent compte de la catastrophe financière que ça peut être.
Oui, exactement.
Ouais. Alors vous avez vu que les Allemands, eux, ont carrément déjà élaboré des stratégies en disant on peut imaginer aucun transport.
Un peu folle, hein.
Voilà, c'est un peu fou. C'est transport uniquement en bus, pas de douche, pas de contact à minima en dehors du terrain, bien sûr. Personne dans le stade, même par exemple les gars qui commentent les matchs en cabine sur le lieu de travail. C'est-à-dire, c'est comme si Jérôme restait ici
à RMC,
pour commenter le match anglais ou de Ligue des Champions. Donc les Allemands, ils ont déjà commencé à envisager tout ça.
Mais ça serait quand même impossible. C'est-à-dire que tu penses pas du tout à la santé des joueurs.
C'est-à-dire que tu vas leur donner pas de récupération, ils vont enchaîner les matchs, ils vont se taper des déplacements. Je pense que c'est mettre en doute, en tout cas, jouer sur l'intégrité du joueur. Tu peux pas, c'est pas du bétail. Je pense qu'à un moment donné, il faut aussi respecter les joueurs. Il y a un entraînement à avoir, une récupération à avoir. Tu peux pas ne pas prendre le train, ne pas prendre l'avion et taper des heures de bus pour te rendre à un match.
Non, et puis surtout que c'est ça me fait rire, moi, ça, c'est le contact, il est quand tu joues au football, il y a du contact dans le vestiaire, il y a du contact. Comment les joueurs ils vont rester à 1 mètre, à 2 mètres l'un de l'autre?
De toute façon, c'est grotesque, parce que ne serait-ce que sur le terrain, de toute façon, tu vas pas faire exactement, un marquage à 1 mètre 50.
Donc tant que ça sera pas amélioré, de toute façon, il y aura pas de match, point final.
Bon, voilà pour les infos du jour que vous retrouvez toutes sur rmcsport.fr. On va maintenant revenir évidemment à la mort de Pape Diouf jusqu'à minuit. On va avoir de nombreux invités. On attend Eric Dimeco qui va arriver dans quelques instants. Mais d'abord, on a Saïd avec nous qui est supporter marseillais. Saïd qui est un fidèle de l'After, c'est notre célèbre Romario qui est là. C'est le sosie de Romario, hein, Saïd, supporter de l'OM qui est venu nous voir à plusieurs reprises quand on était à Marseille. Salut Saïd.
Salut tout le monde et bonsoir à vous et toutes mes pensées vont à la famille de Pape Diouf, quoi.
Évidemment. Tu étais là le jour où on a fait cette émission à l'OM Café avec lui?
Oui, bien sûr.
Oui, bien sûr qu'il était là, je m'en souviens qu'il était là, moi.
On a même fait à Vitrolles avec Julien Cazard aussi, enfin on avait fait plusieurs, quoi, des émissions au Pernod Ricard là-bas. Pareil, quoi. On avait fait ça au club Pernod, là. On a fait ça pour le titre en 2010.
Pour le titre de 2010. Voilà.
Ah ouais, toi, t'as rien raté à Marseille, toi.
Ah non. À chaque fois que vous êtes venu, je vous attends toujours. Hein. Je vous attends toujours.
Ouais, et ce jour-là, il y avait Eric Guéret et Pape Diouf qui étaient là. Parce que Eric Guéret, c'est aussi Pape Diouf.
Bien sûr.
C'est vrai que quand on réfléchit 2 secondes, il s'est rarement planté de coach. Hein.
Bah, surtout que non seulement de coach, mais dans les choix à faire de l'OM, objectivement, il en a fait des très très bons et très pertinents. Au moment où on l'attendait pas, surtout. Parce que aller chercher Guéret, il fallait chercher ce gars. Il fallait surtout y penser. Et quand il a eu l'après Guéret, il a préparé aussi l'arrivée de Deschamps. Le titre de 2010, on lui doit énormément. Parce que c'est lui, comme tu disais
tout à l'heure. C'est ce que je disais tout à l'heure, quand il est parti.
Tu parlais de la constance. Ce mec-là, pas de ouf, franchement. Depuis les années Tapie, il n'y avait pas un seul président qui en avait des comme lui, quoi. Il n'y en avait pas un seul. Et on n'a eu que des peintres. Hein. On les a tous eus, les Labrune, les Héros et compagnie. Ça, eux, pour dire de faire du PowerPoint et dire qu'on est des communicants, c'est walou, hein, c'est rien du tout. Lui, il était vraiment au-dessus du lot. Et il était au même niveau, pour moi, qu'un Bernard Tapie. C'est-à-dire que quand le mec arrivait, il disait à Ribéry, t'arrêtes tes conneries, tu restes ici, tu pars pas à Lyon. Il bouge pas, il reste ici. Quand il va chercher des joueurs, comment dire, des Valbuena et compagnie, il va les chercher. Il va chercher des coups gagnants, des bons coups, des coups gagnants qui vont pas être trop chers pour les finances et qui vont être, comment dire, qui vont être constants. Quand il est venu, Pape Diouf, moi j'ai cette image, c'est ce que je disais à Max tout à l'heure. Il y a à peu près un an, je l'ai croisé en face de l'entrée du stade Vélodrome. Sur boulevard Michelet. J'ai fait un selfie avec lui et bon, tu vois, voilà, on discutait un peu de foot. Il avait qu'une envie, c'était de revenir. Bon, il taclait la direction, mais à juste titre.
Oui,
quoi. C'est même pas,
il avait des rapports très compliqués avec Labrune. Hein. Ils se sont écharpés par presse interposée.
C'est à cause de ça qu'il avait quitté le club. Hein.
Mm. Bien sûr. Mais surtout, je reviendrai sur un épisode qui, moi, m'avait marqué. Et là, je vais faire appel à votre mémoire. Récemment, Aulas venait et puis a insulté Labrune, a insulté Guignol et compagnie. Est-ce qu'il a fait une seule fois ce truc-là avec Pape Diouf? Moi, je me souviens qu'une fois, il s'est pointé, il a voulu faire le mariole avec Pape Diouf, et je ne sais plus si c'était l'histoire
qui ça,
de...
Pardon, je ne t'ai pas entendu. Qui ça, Aulas, Saïd?
Aulas. Ah, Aulas. Oui, oui, oui. Le jour où il a commencé à faire un petit peu le show avec Pape Diouf, bizarrement, ils se sont retrouvés devant les caméras, puis Aulas, il n'emmenait pas large, quoi. Il est redescendu vite fait, c'était l'affaire Ribéry, et ça, il avait monté...
Oui, il ne supportait pas... Oui, Pape Diouf ne supportait pas la volonté d'omnipotence d'Aulas, je me souviens. Bon, après, c'est vrai qu'il répondait tout,
il avait recadré. Voilà, il avait recadré.
Mais je me souviens notamment de d'Aulas qui, dans ce moment-là, dans cette époque-là, lui cherche tout le temps des noises et souvent à l'OM, comme d'ailleurs maintenant, parce qu'il y avait une volonté chez Aulas de substituer la rivalité OM, enfin OL-OM, à la rivalité OM-PSG. Et je me souviens que Pape Diouf avait fait cette sortie, je ne sais pas si on est en 2005, 2006, à l'époque Jérôme au PSG, et il lui avait dit... Et il avait dit, il y a des présidents qui cherchent à inventer des nouvelles rivalités, à se substituer aux anciennes, ils n'y arriveront jamais.
Exactement, exactement.
J'ai pas souvenir que Dolas aussi, comment dirais-je, vindicatif envers l'OM à l'époque Pape Diouf qu'à l'époque, qu'aux époques suivantes, hein.
Si, il cherchait quand même tout le temps, mais bon.
Il essayait de montrer qu'il était là, si tu veux, parce qu'il avait les titres et tout, c'était la grande époque lyonnaise. Donc, ouais. Il voulait montrer que, voilà, c'était un peu l'Olympico est parti de là, j'ai envie de dire. Mmh. Mais réellement, il n'y en a pas un qui lui a tenu tête comme Pape Diouf l'a fait. Il y en a pas un qui nous a fait vibrer comme Pape Diouf l'a fait. C'est-à-dire qu'en tant que président, tu le voyais, il avait un charisme. Et même moi, le jour où je l'ai vu, il était avec une vieille chemise, un jean, avec des claquettes, tu sais, vraiment tranquille, quoi, à l'africaine. Et le mec, bah, pourtant, il en a imposé, quoi, tu vois. Il en a imposé. Et ça, pour tout ce qu'il a fait pour le club, bah, un gros respect, quoi, tu vois. J'ai beaucoup d'émotions parce que je suis surpris, parce que ça a été très vite. Ouais. On n'est pas éternel. Il n'y en a aucun de nous qui va vivre éternellement. Mais je suis assez marqué parce que c'est un homme et c'est un grand monsieur dans le foot français. Pour ce qu'il a fait, pour ce qu'il a fait à l'OM, pour l'image qu'il a laissée derrière lui, franchement bravo quoi.
Alors Saïd, je te remercie. Tiens, reste à l'écoute parce qu'on a avec nous Mathieu Valbuena qui est dans l'after. Bonsoir.
Bonsoir.
Mathieu, évidemment, on bouleverse nos programmes sur RMC ce soir pour parler de Pape Diouf. Donc, on a appris sa disparition il y a maintenant un petit peu moins d'une heure. Vous étiez un des joueurs emblématiques de cette époque à l'OM et vous avez vécu toutes vos aventures marseillaises avec lui. Ça doit être de sacrés souvenirs et un choc pour vous aussi ce soir.
Ouais, pour moi, je suis abasourdi parce que pour moi, c'est avant tout d'être un président, c'est un grand homme. Ça, il faut pas l'oublier. Moi, je l'ai connu, c'est lui qui m'a donné ma chance pour jouer dans ce club et vous dire que c'était vraiment un amoureux de l'OM, mais aussi un grand homme et avec un grand cœur. Et c'est ça qu'il faut retenir de Pape et voilà, on est tous abasourdis et je pense que il va vraiment manquer dans le football parce que il avait toujours des analyses justes dans tous ses interviews qu'il faisait, même en tant que président, c'était un formidable président.
Quel genre de président il était avec vous au quotidien?
C'était un président qui était toujours à ton écoute. C'était un président qui était aussi dans l'affectif, mais qui savait taper du poing sur la table quand il le fallait. Et c'était ce genre de président que aujourd'hui. Était Pape Diouf quand il était à la tête de l'OM, mais il va énormément manquer et je peux vous dire que même en interne à l'OM on rêvait de son retour.
Ouais. Mathieu, s'il y a un ou deux souvenirs particuliers que vous avez avec lui, là, des souvenirs positifs quoi, ce serait quoi?
Ben, c'était quelqu'un qui aimait toujours être il aimait rigoler, il avait toujours le sourire, chambrait énormément, donc il avait toujours cette joie de vivre, cette passion, bien sûr, bien évidemment, parce que même s'il est il était plus le président de l'OM, il était toujours il suivait toujours l'OM, c'était un amoureux inconditionnel de l'Olympique de Marseille. Après, au quotidien, voilà, c'était vraiment un président qui savait être dur quand il le fallait, et puis surtout dans la vie au quotidien, il nous faisait toujours rigoler. C'était vraiment un président où on prenait énormément de plaisir et qui vraiment on était très réceptif de son
Vous étiez toujours en contact malgré les années là?
J'ai eu des contacts. Après, on s'est un peu là ces derniers temps. Non, j'avais plus trop de contacts, mais j'avais toujours des nouvelles par d'autres personnes qui l'avaient. Donc, j'ai su malheureusement depuis ce matin qu'il était à l'hôpital et qui et malheureusement même pas 24 heures après on qu'il est plus là. C'était pour nous et il va vraiment manquer dans le football, vraiment.
Merci beaucoup Mathieu Valbuena, merci, en tout cas d'avoir pris le temps de nous répondre ce soir. Salut, pour cette occasion bien triste. Merci. Bonne soirée. Eric Dimeco nous rejoint. Eric, en direct de Marseille, bien sûr. Salut Eric.
Salut Gilbert, Daniel, Jérôme.
Salut Eric. Bon, évidemment, c'est un after bien triste ce soir, Eric. Alors, toi, j'imagine que Pape Diouf, tu dois avoir des souvenirs avec lui qui datent d'il y a quelques années. On va essayer de surmémorer ça, mais quel est ton état d'esprit ce soir là ? C'est l'abattement un peu à Marseille. Hein.
Ouais, un peu KO là, parce que bah il y a ce qu'il représentait pour le football aujourd'hui, mais moi je l'ai connu. Moi je suis arrivé dans ce club juillet 80, j'avais 17 ans, il était déjà journaliste à la Marseillaise. Je l'ai toujours connu, Pape. C'est simple, j'ai toujours souvenir de sa grande silhouette élégante.
C'est-à-dire qu'il était là quoi.
Ben oui, parce que même quand il était jeune journaliste, tu étais obligé de le remarquer parce qu'il avait une prestance particulière, parce que tu l'as connu, vous l'avez connu, c'était quelqu'un de cultivé, quand il parlait, tu tendais l'oreille, surtout quand tu étais gamin, quoi, et même tout jeune, et il a été à bonne école ici parce que moi quand j'ai débuté, il y avait une bande, il y avait la Provence, le Provençal, le Méridional, la Marseillaise, le Soir, il y avait beaucoup de journaux, et il y avait des grand journaliste un peu emblématique, et il a fait ses armes avec ces gens-là, avec sa plume déjà acérée à l'époque, et puis après il est devenu, vous connaissez sa carrière, hein, manager de nombre de grands joueurs et puis président.
Alors, je reviens juste sur sa période journaliste, Eric, parce qu'il était à la Marseillaise, qui était le journal communiste de Marseille. Le
journal de gauche, oui, journal de extrême de gauche, oui, en effet.
Qui existe le
Méridional. Qu'il n'était pas lui, hein, parce que lui il était plutôt PS. Hein.
Lui il était un homme de gauche, quoi. Bon.
Voilà. Si tu veux, tu avais le Méridional qui était le Méridional qui était journal de droite, le Provençal qui était journal de gauche et le Méridional,
le Marseillaise
qui était ouais plutôt oui c'est ça c'est le truc le journal d'extrême gauche ouais.
Bon et il était là et alors et finalement il a pas fait une carrière de journaliste très longue.
Non.
Puisqu'assez vite il devient agent.
Ouais, assez vite, si tu veux, il a marqué quand même les esprits. S'il attaque journaliste, moi je l'ai connu longtemps comme journaliste, et en plus quand il était, quand il a fait la charnière journaliste agent, moi j'ai souvenir que il avait organisé un match au Sénégal à Dakar contre l'équipe nationale du Sénégal avec des joueurs de Ligue 1 de première division à l'époque. Donc il y avait Marcel Desailly, il y avait Marcel Dib, on était une bande, je crois qu'il y avait Luc Sonor, c'était fin des années 80, donc il était en train de faire la transition, et je crois que c'est à ce moment-là qu'il a commencé à faire la transition, parce que il s'est occupé de beaucoup de joueurs africains dans un premier temps, et puis après il s'est diversifié au point d'être une pointure dans ce milieu-là, et tous les gens qui l'ont connu finalement, quand tu regardes toutes ses carrières, puisqu'il s'est même essayé en politique, c'est quelqu'un qui, même si à un moment donné on a voulu lui accrocher des casseroles, qui a pas de casseroles, pourtant faire passer de journaliste à agent, à président de club, et tâter un petit peu à la politique, normalement tu dois sortir avec moins de plumes, tu vois, et lui une fois il a été embêté, puis il a vite été blanchi derrière,
finalement, ça, mais il a été vite blanchi pour lui. Voilà, bon, après il y a peut-être un ou deux transferts qu'on pourrait trouver un peu, mais franchement c'est... Ouais, il y a rien. Franchement, c'est quelqu'un qui, comme tu dis, avait les moyens de se prendre des casseroles et puis qui en a pas eu. Quoi.
Dans les anecdotes de Pape Diouf agent, il y a la célèbre anecdote de Marcel Desailly à Milan que Marcel Desailly raconte régulièrement. C'est que Marcel Desailly, quand il va à Milan avec Pape Diouf pour rencontrer à l'époque, je sais pas si c'était Berlusconi ou un autre, enfin bon, pour rencontrer les dirigeants de Milan, c'est quand même pas rien, quoi, quand tu arrives dans le grand Milan de l'époque, dans le bureau, et là, il montre un contrat à Desailly et Pape Diouf, il dit non. Là, on veut le double. Et là, Desailly regarde Pape Diouf. Là, Pape Diouf, c'était un jeune agent. Et là, il dit, mais il est fou celui-là, il va me faire capoter le truc. Et donc, ils sortent de la salle. Et Desailly dit à Pape Diouf, il dit, attends, mais t'es malade. Il dit, écoute, laisse-moi faire, je gère. Il rentre dans le truc. Et là, les mecs de Milan disent, bon, c'est OK, c'est signé. Et là, Desailly dit, là, j'ai compris que ça y est, j'avais le bon agent.
Ouais. Voilà, tu vois. Ouais, puis en plus je sais pas comment il travaillait vraiment comme agent, mais d'après ce que j'ai su de loin, c'est pas le genre d'agent qui avait plein de mecs et qui s'en occupait que quand ils étaient en fin de contrat, quoi. Il était vachement proche de ses joueurs. Voilà, puisque j'ai vu un peu passer des messages des joueurs qu'il avait sous contrat. Et
il avait démarré avec Boli et Joseph Antoine Bell.
C'était voilà, premier... Joseph Antoine, je crois, le premier, ouais, en plus, ouais, avec qui j'ai joué à l'époque, milieu des années 80. Ouais, bah écoute, c'est là on est en train de payer un lourd tribut là, avec Hidalgo, Michel Hidalgo cette semaine, enfin la semaine dernière, Pape là, c'est vrai qu'on est on est conscient que cette saloperie de maladie touche tout le monde, mais quand ça touche des personnes qu'on a connues de près, ouais, ça fait flipper quoi, ça fait flipper. Mmh. Et puis en plus il avait ma fille qui a fait des études de journalisme, était dans son école de, puisqu'il avait une école de journalisme ici et de communication, avec qui, enfin,
Jean-Louis Pacul dans quoi.
Oui, il y avait Jean-Louis mmh. qui doit être très malheureux parce qu'il était très proche de Pape et qui est un historique RTL et du sport que tu connais bien.
Ouais.
Voilà, ils étaient très 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 amis. Je pense l'avoir demain au téléphone, il va être touché. Mais il avait monté donc une école de journalisme et ma fille avait passé 3 ans là-bas, donc elle était chouchoutée par Pape et Jean-Louis. Et elle m'a envoyé une texto là parce qu'elle était hyper hyper malheureuse. Ouais.
Mmh. Alors je précise quand même que Michel Hidalgo, c'est pas le coronavirus.
Non, bien sûr.
A provoqué son décès.
Il était très fatigué. Ouais.
Exactement. Éric, tiens, on a José Anigo qui nous rejoint. Bonsoir José.
Bonsoir.
Bonsoir José.
Bonsoir tout le monde, pardon.
José, donc il y a Éric Dimeco qui est là, Daniel Riolo, Laure Le Payeur, Jérôme Roten. José, on le dit depuis tout à l'heure, c'est une journée très triste pour l'OM là aujourd'hui. Hein.
Ah, c'est bien triste. Hein. C'est bien triste aujourd'hui. Moi, quand j'ai commencé à entendre que Pape était malade, on n'imagine jamais le pire. Donc là, quand ça tombe, c'est effectivement c'est une mauvaise surprise, une mauvaise blague.
On est en train de se rappeler un peu sa carrière post-président, pré-président, journaliste, agent. Vous l'avez bien connu quand vous étiez à l'OM et qu'il était le patron. Vous aviez quoi comme rapport avec lui? C'était assez fort, si j'ai bonne mémoire.
Hein. Ah, oui, oui. On a eu cinq années de boulot au quotidien, avec des moments où c'était pas toujours simple, mais on a eu des super moments, des moments très difficiles, pas toujours agréables à vivre, mais ce qu'on va garder, c'est moi ce que je garderai de Pape, c'est 5 années de travail, c'est quelqu'un qui connaissait bien le foot, avec qui il n'y a pas besoin de parler très longtemps pour la validation de certaines choses, les joueurs, la qualité des gens, on connaissait bien le foot, donc c'est assez facile. Et on apprend beaucoup avec des gens comme ça. Après, ça s'est pas fini de la meilleure des manières. Ça faisait un petit moment qu'on se voyait plus. Je l'ai croisé la dernière fois dans un hôtel. On s'est salué. Mais effectivement, quelquefois dans les mariages, ça finit pas toujours bien. Mais je garde de lui le fait que c'était un très très bon président. Quelqu'un qui connaissait bien le foot et quelqu'un qui, à son contact, tu apprends tous les jours, tout le temps.
Et José, alors, je disais tout à l'heure, il y a un truc qui est toujours très important pour les gens à Marseille. Alors tu me corrigeras si je me trompe, mais ce qu'a fait aussi et ce qui comptait pour les gens de Marseille, c'est qu'il était il était réellement en harmonie, en phase avec les gens à Marseille, avec la ville, avec le club. Et c'est ça qui compte et c'est ça qu'on aime, pas forcément d'être de Marseille, mais de s'y sentir et d'être un Marseillais d'adoption s'il faut l'être. Encore que lui, il a vécu là-bas. Mais je disais tout à l'heure, des mecs comme Guéretz ou des mecs comme Goethals, si on remonte un petit peu à avant, ce sont des gens qui, à un moment, ont rencontré la ville et le peuple marseillais et qui a eu, tu parlais de mariage, on peut parler de choses qui ressemblent à ça, quoi. Cette relation-là, elle doit être forte.
Bah, alors, si tu veux, Pape, lui, il était pour moi complètement marseillais dans le sens où il est venu
à 18 ans, il est arrivé.
Ouais, c'est ça, il est venu très jeune. Ouais. Après, il a travaillé, Eric le sait, il a travaillé à la Marseillaise et il nous a côtoyé nous quand on jouait. Alors on l'a connu autrement que à Jean et autrement que voilà, c'était ça part de très loin et il connaissait le club et la ville parfaitement aussi bien que nous qui sommes nés là.
José Anigo, deux petites anecdotes quand même, parce que vous avez vécu avec Pape Diouf la dinguerie Jack Kashkar. Non mais c'est vrai. Et vraisemblablement, vous avez quand même avec Pape, vous vous êtes dit à un moment, on va pouvoir faire une équipe de dingue avec ce mec.
Non, je sais pas si on peut en rire ce soir, mais je vais vous.
Il y a aussi des souvenirs positifs qu'on peut partager.
Ouais, je vais vous raconter une anecdote. On a connu le début avec Kashkar, où le premier avion qu'on a pris pour se déplacer avec lui, il était avec les initiales, les hôtesses à l'intérieur. Et
Enfin bref, tout le tralala pour draguer les gens, pour faire croire qu'on est très riche et très fort.
Ouais, ouais.
Et puis on a marché parce qu'on est rentré dans cet avion, on s'est regardé, on s'est dit ouais, effectivement on va devenir certainement le club le plus important et on va avoir des moyens puisqu'on faisait avec des bouts de ficelle. Effectivement, c'était différent. Et puis sur les 2-3 déplacements d'après, on prenait plus le même avion, plus d'hôtesse, plus rien. Et là, on s'est regardé, on s'est foutu à rire et puis on s'est dit, je crois qu'on est mal barré.
Ouais, quand l'avion change à la deuxième fois, ça commence à devenir un peu.
Ouais, il n'y avait plus les mêmes choses, il n'y avait plus d'initiales, il n'y avait plus d'hôtesse, il n'y avait plus rien. Je te jure, on s'est regardé tous les deux. On allait à Bordeaux en plus, on s'est dit merde, c'est quoi ce truc?
Et autre chose quand même, vous avez vécu aussi ça a fait débat pendant des semaines et des semaines à Marseille et chez nous sur RMC, c'était le départ de Drogba.
Ouais, mais le départ de Drogba, Pape, il n'était pas encore dans le club, il était un pied dedans, un pied dehors, il était à cheval, il était.
Ouais, c'est la fin de Boucher quand Drogba il part.
Non, c'était Pape rentrait, Boucher faisait rentrer Pape, c'était. Il était encore un pied à Mondial Promotion, un pied. Il allait rentrer avec nous. Il a travaillé sur la sortie de Didier. Effectivement, on n'était pas chaud pour le faire partir parce que ça ressortait d'une très grosse saison. Et après, je pense que la décision a été prise par l'actionnaire. Et puis voilà, on a suivi le mouvement, mais Pape n'était pas non plus partisan pour que Didier s'en aille au début et personne ne l'était d'ailleurs.
Bon, moi je me souviens d'une déclaration, il avait dit à l'époque, face à de telles propositions, malheureusement on ne peut que s'incliner.
Oui. C'est ce qui a fait la différence, effectivement. C'est pour ça qu'à un moment donné, à l'actionnaire, après, il te met au pied du mur, il te dit, on vend et c'est fini. Voilà.
José Anigo, si vous deviez un peu le placer, on va dire, dans le panthéon de l'OM, quoi, aujourd'hui, pas par rapport à tout ce qu'il a apporté à ce club, vous le metteriez où?
Écoutez, moi Eric le sait. J'ai démarré un peu avant Eric, un peu plus vieux qu'Eric, donc je crois que dans tout ce que j'ai croisé comme président, hormis Tapie, je pense que c'est celui qui connaissait le foot certainement le mieux.
Voilà. Mais comment en plus tu n'as pas une énorme estime de Tapie, c'est Diouf le meilleur.
Je respecte beaucoup Tapie, hein. Attention, je veux dire, je m'entendais pas avec lui parce que pour plein de raisons, mais j'ai un énorme respect pour lui parce que je sais ce qu'il a fait au sein du club et je sais ce que le club a gagné avec lui. Donc franchement, j'ai un immense respect pour ça.
Hein. Il parlait pas. Moi, j'ai pas de souvenir de Pape Diouf qui parle de jeu. Alors peut-être qu'il faisait exprès parce qu'il voulait pas se mettre sur le terrain du coach, quoi. Donc, mais il en parlait, José.
Oui. Oui, 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 oui. Oui, quand on était tous les deux, on en parlait, souvent quand on était en déplacement, comme on était souvent tous les deux, des fois il y avait Julien Fournier aussi, mais souvent avec Pape, on était dans la discussion des matchs et soit pendant, soit après, mais oui, il connaissait le foot, donc on pouvait parler de
c'était un passionné de foot, il adorait ça. Hein.
Oui, bien sûr, c'est un vrai passionné, mais c'est quelqu'un avant d'être agent ou avant d'être président. Il était journaliste sportif, donc il avait, son avis sur le jeu, sur l'aspect tactique et tout ça, non, il connaissait bien le foot, bien les joueurs. Oui.
Merci beaucoup José Anigo.
Merci José.
Merci à vous et voilà. Un plaisir, à bientôt.
À très bientôt dans l'After pour d'autres circonstances un peu plus positives. Ouais, tu confirmes Eric, le jeu, voilà.
Bah, c'est vrai qu'on dit.
On l'appelle toujours pour parler des histoires administratives, oui, les conflits, les machins.
Oui,
donc, bon.
Oui, puis en plus, il avait une culture tellement élargie que tu pouvais parler de tout avec Pape, donc c'était facile. Mais quand tu as eu sa carrière, donc je le répète, puisque en plus, José le dit, lui, il a commencé avant moi, il est un petit peu plus vieux que moi, donc il a commencé avant 80, journaliste. Donc quand tu passes toutes ces années-là comme journaliste autour d'un club comme l'OM, parce qu'en plus, il a été dépêché à l'OM très rapidement quand il est rentré à la Marseillaise. Donc quand tu côtoies, puisque l'on parlait des grands présidents, il y a eu des histoires déjà à la fin des années 70, 80 ici. Probablement ça a toujours été, il y a toujours eu des histoires. Donc avec des entraîneurs qui étaient dégagés même quand le club était premier, avec des investisseurs qui avaient rien à investir, avec l'histoire des Bolivars. Je sais pas si vous vous souvenez, c'était cette histoire au début des années 80 quand le club a failli déposer le bilan. Il y avait des mecs qui devaient arriver avec des bolivars. C'est une histoire, moi je me souviens, j'étais jeune.
Le bonnet du Venezuela.
Exactement, c'était des Vénézuéliens qui venaient, alors des Marseillais qui avait dû faire fortune là-bas d'un je ne sais quoi, qui devait investir des beaux, voilà, des bolivars. Mais tu regarderas sur internet, tu vas retrouver cette histoire-là, puisque moi j'étais gamin, je devais avoir 18 ans, mais ça m'avait marqué parce que le club était en difficulté. Donc Pape était là. Donc quand tu suis ce club-là pendant des années avec toutes ces histoires-là, que derrière tu deviens manager de grands joueurs, tu connais le foot, quoi. Je veux dire, Daniel, il connaît le foot, il a pas joué. Tu peux connaître le foot. Le foot, ce qu'il y a de bien, c'est que quand tu es un suiveur averti et que tu es pas con, tu vois, on a rien inventé, quoi. Il faut pas croire. Hein. Donc, bien sûr qu'il connaissait énormément le foot. Et d'ailleurs, je viens d'avoir mon meilleur ami au téléphone. Il avait eu il y a 15 jours au téléphone pour son fils qui est dans un centre de formation et qui est un peu en difficulté, et il était encore de bons conseils, c'est-à-dire que des mecs qui sont encore aujourd'hui proches du foot l'appelaient pour avoir des conseils parce que c'était sage, quoi.
Ouais.
Voilà, c'était sage. Et moi, surtout, les souvenirs que j'ai, c'est que quand tu parlais avec Pape, tu avais l'impression de ressortir plus intelligible parce que tu l'entendais parler, quoi. Il parlait le français que plus personne ne parle aujourd'hui. C'était le français littéraire, quoi. Voilà. Et puis vachement cultivé. Voilà, c'était un monument, Pape, ici à Marseille. Et il va rester. Quand je vois les messages des supporters et des gens ici, des coups de fil que j'ai reçus, des textos que j'ai reçus, je peux te dire que demain ici, les gens vont se lever avec la gueule de bois, quoi, parce que c'était un enfant de Marseille, quoi.
Alors c'était l'adverbe nonobstant qui était son
nonobstant. Ouais.
Nonobstant, c'était sa.
J'ai toujours essayé de le placer. J'ai jamais su à quel endroit il fallait le placer dans une phrase. C'est con, hein.
Ouais. Bon, j'ai tapé Bolivar OM. Je trouve le monument hommage à Simon Bolivar à Marseille, et puis les vols Marseille Caracas. Mais sinon,
Alors, tu sais quoi? Je vais retrouver cette histoire-là par des vieux journalistes, notamment Jean-Louis qui peut me la raconter, Pacule. Et je vous la raconterai, cette histoire, parce qu'elle est méconnue. Mais on a eu au début des années 80 une histoire avec des investisseurs qui devaient amener, et on attendait toujours les bolivars.
Le nombre de pimpins qui ont annoncé qu'ils allaient reprendre l'OM, finalement ça s'est pas fait. Écrire des livres. Ouais. Merci Eric, en tout cas c'était sympa.
On
se retrouve jeudi.
Jeudi.
Salut Eric.
Salut Eric. Dans quelques instants, le 32-16 toujours ouvert, bien sûr. On aura coach Courbis avec nous, qui lui aussi bien sûr a connu Pape Diouf très tôt et très longuement avec sa carrière marseillaise. On se retrouve dans l'after tout de suite jusqu'à minuit. Spécial Pape Diouf, bien sûr, après la disparition de l'ex-président de l'OM aujourd'hui à Dakar du fait du coronavirus. À tout de suite sur RMC.
RMC jusqu'à minuit.
L'after foot. Gilbert Bribois.
Avec Laure Lepailleur ce soir, avec Jérôme Roten, Daniel Riolo, le 32-16 est ouvert, bien sûr, spécial Pape Diouf, évidemment, dans l'after. Nous lui rendons hommage avec vous tous, supporters de l'OM et des autres clubs, hein, qui avaient vécu la période Pape Diouf à l'OM. Coach Courbis est avec nous, salut Roland.
Oui, salut à tous.
Salut Roland.
Coach, évidemment, on aurait préféré que tu sois dans l'after pour des circonstances plus positives. Eric nous disait qu'il a toujours vécu à Marseille avec Pape Diouf depuis qu'il est gamin. Pareil pour toi.
Je vous ai écouté. Bon, évidemment, moi qui ai l'habitude d'être plutôt gay là sur ces derniers jours, entre certains proches, plus Michel Hidalgo et Pape ce soir, sincèrement, là, c'est quand même une période pas évidente du tout, surtout que du côté de Pape, c'est allé quand même très très vite. Il y a 4-5 jours de ça, il était encore, paraît-il, en pleine forme. J'ai écouté ce qu'a pu dire Eric, c'est difficile de rajouter quelque chose, si ce n'est que, bon, je m'en rappelle, mais alors, comme si c'était hier, il faisait partie du paysage de la région et du paysage du club, comme un gars élégant, un journaliste quand même très 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 apprécié.
T'as un souvenir de son époque journaliste?
Ah bah oui.
Il était comment, Gérard? Il était un peu il envoyait toujours, un peu, il attaquait
oui,
un peu.
Intelligemment, toujours avec des questions pertinentes, une façon de s'exprimer, comme a pu le dire Eric. Bah, c'est sincèrement, quand tu parler à Pape, tu te demandais si vraiment c'était la même langue que nous parlions nous et lui, c'était totalement différent. Mais cette élégance Ce qui m'avait surpris à l'époque, c'était Robert Ludreyfus qui voulait mettre de l'ordre dans le club et qui avait chargé Louis Acariès, chargé de mission pour justement trouver dans l'après Boucher, qui était un petit peu en difficulté, l'homme de la situation. Donc j'étais tenu au courant amicalement par Louis, puisque j'avais été là lors de la présentation de Robert Ludreyfus à Louis Acariès, et Louis, par sympathie et par amitié, me tenait un petit peu au courant. Et dans sa mission sur l'OM, qui a duré plusieurs semaines, il avait donc trouvé que la bonne idée pour être président de l'Olympique de Marseille, sincèrement, j'y avais pas pensé une seconde. Mmh. J'avais dit, écoute, si tu le sens, pourquoi pas? Parce qu'il m'a dit, il connaît tout le monde, il connaît la région, il connaît le club, il connaît les supporters.
Ah oui, donc
c'est
Louis Acariès qui a eu cette idée, en fait.
Ouais. Donc, il connaît le milieu et le circuit des joueurs pour le recrutement, les relations médiatiques en tant que média apprécié, il a de la prestance, de l'élégance, de la façon de s'exprimer. Et c'est vrai qu'avec toute cette liste, j'avais dit, effectivement, pourquoi pas. C'est vrai que c'est pas parce que j'y avais pas pensé que ça serait pas une bonne idée. Et ça a été, je pense, une très bonne idée. Parce que quand on voit ce qui se passe à la dernière intersaison, où là, on va pas rentrer dans les détails ce soir, et tu auras l'occasion d'inviter Louis qui t'en parlera mieux que moi. Donc, il est obligé de partir avec des trahisons. Donc, c'est pas le soir pour en parler. Mais tout en partant, il remplace Guéret par Didier Deschamps. Il s'occupe du recrutement. C'est lui qui fait venir Drogba à une certaine époque aussi.
Parce qu'en fait, donc, ce que nous disait José Anigo tout à l'heure, c'est qu'il n'était pas là au départ, mais il était l'agent de Drogba, il faut le rappeler. Hein.
Quand Drogba arrive
à Marseille.
Non, mais pas seulement l'agent de Drogba. Mm. Il a réussi à avoir une trentaine de joueurs de top niveau de cette époque. Et là aussi, il avait fait la différence par sa façon de s'exprimer, par son intelligence. Il était en même temps instruit et intelligent. C'est pas souvent qu'on peut avoir les deux.
Il avait un truc coach quand même qui l'a beaucoup aidé dans son poste de président. C'est que il a fait sa fortune avant d'être finalement patron de l'OM. C'est-à-dire que ça lui offrait quand même une liberté d'action et de pouvoir dire de temps en temps à qui il voulait, en gros, allez vous faire foutre, quoi. C'est-à-dire que il n'avait pas forcément besoin de l'OM, quoi.
Oui, et puis quand il est arrivé, il a été obligé, ce qui est tout à fait logique, de se séparer, entre guillemets, de son écurie de joueurs. Donc, il a laissé ça à son associé pour pouvoir être à 100% président de l'Olympique de Marseille, qu'on puisse pas lui reprocher d'être en même temps agent. Et là, il a fait quand même un sacré boulot. José l'a côtoyé, moi j'étais plus au club, et c'est sûr que ce que fait Pape Diouf à cette époque-là, c'est difficile de faire mieux, puisque il réunit toutes les qualités pour pouvoir être un bon président, mais un bon président, pas un bon président de tous les clubs, un bon président de l'Olympique de Marseille. Alors, je sais pas s'il aurait réussi dans tous les clubs, mais vraiment, il était fait, quand on regarde ses qualités, pour réussir en tant que président de l'Olympique de Marseille.
Et il y a eu à un moment, je ne sais pas Daniel si tu as souvenir de ça, des rumeurs très insistantes qui faisaient de lui un ministre des Sports sous François Hollande. Hein.
Il a reçu la Légion d'honneur de François Hollande. Et
en 2012. Ouais.
Et effectivement, il avait été un petit... Je crois qu'il avait été approché. Ouais.
Bon, et d'après ce que je sais, je pense que lui, il aurait préféré travailler sur d'autres domaines que le sport, en fait. Tu vois, dans son investissement politique, mais enfin, de toute façon, ça s'est pas fait. Roland, écoute, merci en tout cas d'avoir été avec nous.
Oui, merci. Pas de quoi.
Et bon courage.
Sincèrement, on a vraiment une période là, pas évidente du tout, mais on s'accroche.
Ouais, on s'accroche. T'as raison, coach. Bonne soirée.
À très vite. Et vous savez qu'il était le fils d'un militaire, Pape Diouf, et son père avait combattu pour la France pendant la Deuxième Guerre mondiale.
D'accord, ça je sais pas au courant.
Ouais. Il était, alors, oui, parce qu'il est né au Tchad.
Oui, il est né au Tchad après, mais il est revenu au Sénégal alors qu'il était tout bébé. Donc il a grandi au Sénégal.
Enfin, son père avait un poste là-bas.
C'est ça, il avait un poste là-bas. Il était militaire, son père. Il s'était battu pour la France.
À l'époque où le Tchad était encore français, en fait, hein, évidemment.
Exactement.
Merci coach, une nouvelle fois. Ciao.
Merci à vous et bonne soirée.
Bonne soirée.
Toutes mes et nos condoléances à sa famille, bien évidemment.
Oui.
Évidemment. Tiens, Jean-Luc est avec nous, supporter de l'OM. Jean-Luc, bonsoir.
Bonsoir. Bonsoir. Écoutez, moi je suis vraiment particulièrement triste du décès de Pabiouf. Comme beaucoup de supporters de l'Olympique de Marseille, je vois déjà beaucoup de copains qui nous écrivent, c'est parce qu'en fait, Pape Diouf, tout à l'heure, Daniel avait absolument raison, il était proche du peuple marseillais, c'est quelqu'un qu'on appréciait parce que il était fort avec les forts, il était pas que fort avec les faibles, et c'est quelqu'un qui, même dans un contexte où on n'a pas gagné grand chose, eh ben, il nous a toujours été proche des Marseillais. C'est-à-dire que c'était un président supporter. C'est un président comme on aimerait en avoir encore. Mmh. C'est un président qu'on nous, on n'oubliera pas. Et je disais tout à l'heure, vous posiez la question dans le Panthéon. Dans le Panthéon, pour moi, il n'y en a que deux qui étaient, je dirais, un petit peu au-dessus de lui, mais ils avaient d'autres moyens que lui. C'était Marcel Leclerc et Bernard Tapie. Mais après, c'est vraiment Pape Diouf qui est pour moi qui suis un vieux supporter de l'Olympique de Marseille, le représentant de l'OM. Quand on voit, il a des faits d'armes énormes. C'est quelqu'un qui encore portait son courage, pour pas dire plus vulgairement autre chose. C'est quelqu'un qui était capable d'aller contre des gens pour dire contre Deolas en disant Ribéry, ben tu le prendras pas. Et puis Ribéry, s'il faut que tu joues pas, tu joueras pas. Mais tu restes ici parce que j'ai décidé, parce que l'institution, c'est moi, l'institution, c'est l'OM. Et lui, il représentait l'institution, c'est-à-dire qu'il nous donnait la fierté à nous, des Marseillais, d'être des supporters de l'OM. C'est-à-dire que quand on avait un patron, un président qui s'appelait Pape Diouf, on était fiers d'avoir ce président-là. On était fiers d'avoir un président comme ça. On marchait droit, la tête haute, même si on perdait, on avait la tête haute. Et ces gens-là, et ce qui est honteux aujourd'hui, c'est de savoir que quand vous ouvrez la page de l'OM jusqu'à il y a 20 minutes, il n'y avait pas un article encore sur Pape Diouf. Mmh. Ce qui est honteux, c'est que ce monsieur n'a jamais été reconnu par la nouvelle direction de l'Olympique de Marseille. Et ce monsieur, il a beaucoup apporté parce qu'à un moment donné, après l'époque Courbis, l'OM, c'était quand même devenu quelque chose de très, très compliqué. C'était vraiment une horreur. Et ce monsieur, il nous a amené des gens. Pas avec des millions d'euros. Il n'est pas allé faire signer des Rudy Garcia avec des millions d'euros. Non, lui, il est allé prendre un entraîneur qu'on ne connaissait pas.
Alors Jean-Luc, reste avec nous. Bon, on a Louis Acariès en ligne, qui est donc, comme l'expliquait Roland tout à l'heure, l'homme qui a intronisé Pape Diouf, enfin qui a fait introniser Pape Diouf comme patron de l'OM. Bonsoir Louis.
Bonsoir.
Oui, Roland nous racontait ça tout à l'heure. C'est vous qui avez suggéré à Robert Le Dreyfus Pape Diouf comme patron.
Pas tout à fait comme ça. Le conseil de surveillance et Robert, je pense qu'ils avaient tourné la page. Non, je l'ai imposé, c'est différent.
Ah, comment vous avez fait alors?
Je l'ai imposé, voilà, puisque j'avais le mandat de mettre le président. J'ai mis un peu de temps, j'ai mis quelques mois, parce que je suis arrivé en 2004, officiellement, pas officieusement, parce qu'officieusement, ça fait longtemps que j'étais arrivé à l'OM, mais officiellement, en 2004, en novembre. Et il fallait mettre un président à la place de Boucher, donc j'ai attendu quelques mois pour concrétiser mes pensées et le faire admettre par tout le monde, voilà.
Et pourquoi lui ?
D'abord parce qu'il était avant que j'arrive officiellement. Voilà. D'abord parce qu'il c'était Boucher qui l'avait fait venir en tant que directeur sportif. Et pourquoi lui? Parce que j'ai trouvé que c'était un homme, après avoir fait, soi-disant, l'audit qu'on m'avait demandé de faire. Et j'avais trouvé que cet homme-là était le futur président de l'OM, idoine, comme on me l'avait suggéré. Donc je l'ai imposé. Voilà. Et je vous le dirai franchement, je ne l'ai jamais dit, mais de force. Voilà.
Bon, un choix finalement que personne n'a regretté à Marseille, quoi.
La preuve, voilà. Donc, je l'ai eu, ça fait pas très longtemps encore, ça fait une dizaine de jours. Il était bien. Mmh. Il était bien, mon papou. J'étais le seul à appeler papou, hein, n'oubliez pas ça. Voilà, il était bien, il était en pleine forme. Il me dit, dès que j'arrive en France, on se voit, Louis. Je suis vraiment bouleversé. Parce que, non pas qu'on puisse mourir de cette horreur de fléau qui a actuellement, mais je suis bouleversé parce que j'ai été dans l'intimité, mais en dehors de son talent de président, il est dans l'intimité, il était sympathique et on pouvait rire avec lui, voilà. Donc c'était un vrai pote, voilà. Je suis, voilà, ce soir, avec ma famille, on le regrette vraiment, voilà.
Bon, bah, Louis Acarias, merci en tout cas de nous avoir répondu. Et à très bientôt sur RMC.
À bientôt.
Bonne soirée, Louis Acarias qui était avec nous. On va faire une petite pause et on revient. Le 32-16 est toujours ouvert. Jean-Luc, merci à toi pour ton témoignage.
Merci, merci, merci. Et puis merci à vous de rendre hommage à ce grand monsieur. Et puis j'ai toujours un petit mot. Moi, je suis supporter de l'Olympique de Marseille pour Daniel, parce que quand Daniel il parle de l'OM, même si on sait tous que c'est un supporter du Paris Saint-Germain à la base, il parle de l'OM de façon très correcte, très juste, toujours de façon professionnelle. Et c'est quand même important d'entendre ça de la bouche, pour moi, du meilleur consultant de football français.
Ça me fait plaisir que ce soit dit par un Marseillais.
Jérôme aussi, Jean-Luc ?
Alors moi, alors je vais vous dire
un truc, Daniel,
Jérôme,
mais...
j'ai souvent dit, Jérôme Rotten, en tant que joueur, je l'ai haï et détesté, parce que je trouvais qu'il avait parfois des comportements qui n'étaient pas tout à fait corrects, même s'il avait du talent. Par contre, je trouve que comme consultant et comme journaliste sportif, c'est quelqu'un de très bien, et que quand il parle de l'Olympique de Marseille, lui aussi, il n'en parle pas sur le ton de la moquerie, il n'en parle pas sur le ton de la dérision, mais il en parle de façon correcte, et quand l'OM joue bien, il en parle bien, et quand l'OM joue mal, il en parle mal. C'est la même chose pour Pierre Ducrot. C'est ce que j'apprécie chez vous, chez vos journalistes, chez les journalistes de l'After, c'est que même si on sait très bien qu'ils sont pro telle ou telle équipe, quand ils parlent football, quand ils parlent réalité sportive, eh ben ils disent vraiment ce qui est la vérité, ce que
c'est la base. Hein, tu sais, tu devrais pas. En fait, je vais te dire, hein, c'est très 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 gentil ce que tu dis, mais tu devrais presque pas nous féliciter pour ça, parce qu'en fait c'est quelque chose de normal. Et on est content.
Ouais,
et
c'est à force d'avoir avec Jérôme. C'est à force d'avoir pris des boulons sur la tête au Vélodrome que
ça lui a remis les idées. Ça lui a remis les idées en place.
C'est pas gentil, Daniel. C'est
sincère,
parce que c'est vrai.
Non, mais je te remercie. Je vais te dire qu'avec Pierre, avec Jérôme, on considère que c'est tout à fait normal et qu'on n'a pas à être autrement. Gilbert, juste avant la pub, ouais. je veux l'embrasser parce qu'il nous écoute depuis des années, et il est au Sénégal. C'est Insa Dieye qui m'envoie un mail, et il avait envie de parler de Pape Diouf. Évidemment, il est bouleversé et très touché. Il peut pas nous appeler et qu'on est débordé ce soir, je vous
parce que là on parle du Pape Diouf à l'OM, mais on pourrait faire une émission entière sur Pape Diouf et ce qu'il a fait en Afrique.
Tu sais qu'au Sénégal, l'After est très écouté, que Insa qui nous écoute depuis des années là-bas, je voulais être avec lui dans ce moment qui est très triste pour lui.
Dans quelques instants, on sera avec Christian Cataldo, supporter emblématique de l'OM, qui était très proche de Pape Diouf, président des Dodgers. Il sera avec nous dans quelques instants. On revient tout de suite dans l'After.
RMC, l'After Foot, Gilbert Bribois.
Laure Lepailleur est là, Jérôme Rotten également, Daniel Riolo. Évidemment, on n'a pas trop le cœur à faire un quiz ce soir, donc on n'en fera pas. Hein. Julien Cazard reviendra avec nous demain pour le quiz. Christian Cataldo est avec nous, le patron des Dodgers. Bonsoir, Christian.
Bonsoir.
Christian, je le disais, vous aviez des rapports particuliers avec Pape Diouf depuis nombreuses années, parce que vous êtes vous aussi un historique de l'OM, hein, bon, plus dans la tribune que dans les bureaux, mais aussi parfois dans les bureaux. Quel rapport aviez-vous exactement avec lui ?
Bah ouais, on avait de très bons rapports quand il était président et même après, quoi. Ce soir je suis un peu abattu, je suis un peu triste, et toute la famille des supporters marseillais sont vraiment tristes, un peu comme a dit votre auditeur là, Jean-Luc, un peu avant. De toute façon, tout ce qui a été dit, j'écoutais José, j'écoutais Eric. Au fait, l'histoire des bolivars, c'est sous la présidente Christian Carlini que ça s'est passé, les bolivars.
Donc c'est vrai cette histoire.
Oui, c'est vrai. C'était le président, c'était Christian Carlini, président de l'OM à l'époque. Donc, je voulais dire que ce soir, je suis complètement abattu. c'est très très triste. On a perdu quelqu'un de grand, quelqu'un de qu'on aimait beaucoup, qu'on, qui était dans le cœur de tous les supporters marseillais.
Il avait réussi à les groupes à Marseille. Vous n'avez pas toujours eu des rapports positifs avec la direction. Hein, ça
non, mais
ça aurait été compliqué. Avec lui, c'était comment?
Parce que Pape Diouf, c'était tout simplement un être humain. Voilà, il était humain avant tout. Il était à l'écoute, mais il savait aussi à un moment quand il fallait, comme l'a dit José, quand il, je sais pas qui c'est qui l'a dit, quand il fallait taper sur la table, il tapait sur la table. Et pour nous, Pape Diouf, ça restera. Je tiens à le dire parce que vous n'avez pas parlé, ça restera le président qui a envoyé les minots à Paris pour soutenir ses supporters. Ouais, non, mais c'est ça, c'est vrai, c'est fort.
Oui, faut
c'est
rappeler fort. Que c'est, les minots, c'est parce
c'était
que
c'était un geste que personne n'a fait parce que
il oui, c'est pas vrai que place.
C'est vrai, voilà, parce que on voulait pas nous donner les places. Et on lui a dit, Pape, il faut que tu... Enfin, il y avait Pape, il y avait José. Il faut être que vous dites que vous êtes avec nous. Il faut être avec nous. C'est là maintenant qu'il faut le montrer. Il faut pas envoyer l'équipe à Paris. Et il a réussi quand même à nous expliquer que si on n'envoyait pas l'équipe, je veux dire, ça allait être plus dur encore parce qu'on allait se prendre des sanctions, ça et tout. Mais il a dit, vous inquiétez pas, on va vous soutenir jusqu'au bout et on va montrer qu'on est avec vous. Et il a envoyé les minots à Paris.
Alors, ah, Monsieur Cataldo, si vous permettez...
C'était un geste que laissez-moi finir. C'est un geste que les supporters, notamment nous, les leaders de groupe et tous les supporters qui font les déplacements et tout, on a le cœur et ça c'est Pape Diouf. Voilà. Entre autres de toutes les autres choses qu'il nous a apporté, la seule chose, le seul regret qu'on a, c'est qu'on n'ait pas gagné de titre avec lui. Voilà.
Alors justement, c'est juste moi tout à l'heure, je rappelais la régularité des positions de l'OM au classement sous sa présidence. S'il faut juste un petit bémol. Bon, c'est pas que pour lui, parce qu'il y a beaucoup de présidents qui font très attention à la communication et qui parfois en usent et en abusent. Cette histoire des minots et c'est vrai, complètement extraordinaire pour le souvenir qu'elle a laissé. Maintenant, c'était une énorme opération de com qui a apporté cette joie aux supporters de l'OM dont on se souvient encore aujourd'hui. Mais à tout prendre, entre ce 0-0 un peu complètement fou et la finale de la Coupe de France... contre le PSG que l'OM a perdu dans la foulée, il aurait peut-être valu mieux un titre, parce que dans l'année d'après, en 2007, il a également perdu la finale contre Sochaux. Et c'était bien son amour de l'OM et tout, mais juste le mini bémol de la soirée, c'est qu'à un moment la com aussi, les présidents en abusent trop et parfois, bon, ce match il est fantastique, mais je crois que l'OM aurait préféré gagner la Coupe de France contre le PSG.
Alors vous pouvez. Oui, c'est votre avis. Vous devez avoir un avis, mais moi, je veux vous dire que le match des minots,
c'est plus important que la finale de la Coupe de France.
Non, mais c'est pas ça que je veux vous dire. C'est que c'est peut-être une opération de com après coup, mais à la base, il était sous pression, sous notre pression, quoi. Enfin, il était sous pression. On mettait pas Pape Diouf sous pression comme ça. Mais il y avait une forte. C'était nous qui avions sollicité. Je me rappelle encore de cette réunion. Et on lui a dit, il faut que vous soyez contre nous, il ne faut pas que l'OM lâche ses supporters, il faut aller jusqu'au bout. Cette fois, il faut aller jusqu'au bout, il faut poser, excusez-moi de dire, il faut poser les couilles sur la table. Alors après, peut-être que ça a été une bonne opération de com' pour lui, mais au départ, ce n'était pas ce qu'il voulait faire. Hein.
Oui, bien sûr.
Il faut bien que vous ayez conscience de ça. Quoi. Voilà. Et après, je peux vous dire aussi que la finale de la Coupe de France, son plus grand regret, c'était celle de Sochaux. Ça, je peux vous le dire parce que moi, j'ai discuté avec lui et un jour, c'est une petite anecdote, il m'a dit, quand j'ai vu, je ne vous dis pas le nom qu'il a dit pour le président de Sochaux, qui me brandissait la coupe sous le nez, Pape, c'était pas un homme violent, mais là, il avait vraiment la haine dans les yeux, quoi. Enfin, je rigole un peu, mais bon, c'est vrai.
C'était, ah, c'était le célèbre Plessis à l'époque, à Sochaux.
Ouais, voilà, c'était pas son ami, celui-là. Et donc, voilà. Donc, mais bon, en dehors de tout ça, comme l'a dit le jeune tout à l'heure, pas le jeune parce qu'il devait avoir à peu près mon âge, c'est vrai qu'il y a eu trois présidents qui ont sorti du jeu à l'OM, évidemment Bernard Tapie, Bernard Leclerc dans Marcel Leclerc dans les années 70 et Pape Diouf. Voilà, si vous parlez à n'importe quel supporter de l'OM, les anciens vous sortiront Leclerc, ceux de mon âge vous sortiront Tapie et les plus jeunes vous sortiront Pape Diouf parce qu'ils n'ont pas le coup du Tapie et c'est comme ça, quoi. Voilà, c'est quelqu'un qui était, c'est un Marseillais, c'était un humain. Il avait les valeurs qu'on a dans ce club.
Christian, voilà. Il y a Florent Germain qui nous rejoint, qui est bien sûr qui était déjà avec nous tout à l'heure, hein, qui est de retour. Voilà. Florent, tu m'entends?
Je suis là, oui.
Christian, bon, j'imagine que les supporters vont réfléchir à un hommage.
C'est un peu notre regret qu'on peut pas lui rendre hommage parce qu'on a cette merde là qui nous emboucane, ouais, comme on dit ici à Marseille, et qu'on en a pour certainement plus que des semaines à supporter ça, et que je pense que le championnat, il va pas reprendre, et peut-être si l'autre reprend dans la saison prochaine, ce sera bien, mais on lui rendra hommage quand le moment arrive. On va peut-être faire quelques banderoles qu'on va afficher dans la ville, là, je sais que les groupes peut-être vont se motiver, et nous, on va essayer de le faire, voilà, pour lui rendre hommage, mais on lui rendra hommage en temps voulu, quand le calme sera revenu, et que notre vie sera plus bouleversée, sera revenue à la normale, quoi. C'est sûr que le peuple marseillais rendre hommage à Papa Diouf, ça c'est sûr et certain, parce que on a perdu un peu quelqu'un de notre famille ce soir.
Merci Christian Cataldo, merci beaucoup.
Je vous remercie, bonsoir.
Bonne soirée, à bientôt dans l'after. Florent, donc tu es, oui, t'es de retour.
Bah oui, vous voyez, Christian résumait la frustration que j'évoquais, hein, des supporters marseillais de ne pas pouvoir lui rendre hommage. Et puis j'entendais Christian parler de la finale perdue contre Sochaux. Je crois qu'un autre regret qu'il a eu, et d'ailleurs il me l'avait lissé quand on se croisait encore ces derniers temps, parce qu'il faut rappeler que Pape Diouf était un homme encore en forme il y a une petite semaine, hein, et il faisait souvent quelques apparitions sur Marseille, et c'était toujours un plaisir de discuter avec lui. Son grand regret, c'est de ne pas avoir été champion de France avec l'OM, c'est sûr et certain. Il a en travers de la gorge ce match contre Lyon.
Loin, hein.
Il n'est pas passé loin, ce match contre Lyon, où Lyon vient gagner au Vélodrome la saison 2008-2009, et où il comprend peut-être que c'est Bordeaux qui va être champion. Et je crois que ce match-là reste l'un des grands regrets de Pape Diouf. Et je voulais aussi raconter cette histoire que tout le monde ne connaît pas, cette anecdote qui en dit long sur le personnage de Pape Diouf. C'est quand il est entre guillemets convoqué à Zurich en 2009, alors que Robert Louis-Dreyfus est mourant. Robert Louis-Dreyfus a à peine la force de parler, et il lui annonce, même si c'est pas une décision totalement de son propre chef à Robert Louis-Dreyfus, qu'il ne sera plus président de l'OM. Et en fait, Pape Diouf, en voyant l'état physique de Robert Louis-Dreyfus, décide de lui serrer la main, peut-être de l'embrasser sur le front, et de partir sans lutter pour s'accrocher à ce poste de président. Il comprend que l'actionnaire de l'OM est sur le point de les quitter, et donc il part lui aussi sans lutter, sans éventuellement développer des arguments pour rester président de l'OM. Donc il y avait beaucoup de dignité ce jour-là de la part de Pape Diouf, qui n'a pas eu la fin qu'il méritait, en tout cas du côté de l'Olympique de Marseille.
Florent, merci beaucoup.
Merci à vous.
Évidemment, je rappelle qu'on a bouleversé notre programme ce soir, hein, suite à l'annonce de ce décès. Donc notre sujet avec nos jeunes afteriens, on le fera demain. Bien sûr, demain Julien Cazard sera de retour avec nous. Je vous rappelle donc l'information principale du soir dans le monde du foot, donc le décès de Pape Diouf à Dakar, qui est mort du coronavirus. Tout ça s'est joué en quelques heures, puisqu'il était encore en bonne forme en fin de semaine dernière, et donc il aurait dû normalement être rapatrié en France cette nuit, et finalement donc c'était trop tard, et il est mort à l'âge de 68 ans, lui, l'ancien président de l'Olympique de Marseille. Jérôme Laure, j'espère qu'on se retrouve très vite pour un after un peu plus joyeux, évidemment.
Exactement.
Bonne soirée.
Effectivement.
Bonne soirée. Nous, on sera là demain soir à 22h. Daniel, alors tiens, demain soir, on fera enfin notre sujet avec nos jeunes auditeurs. Et puis, on aura également Julien Met demain soir, notre pote sélectionneur de Djibouti. Parce que Julien est aussi un grand connaisseur des Girondins de Bordeaux et n'était pas du tout content de notre débat d'hier sur le match de Ligue des Champions face à Lyon. Donc, il veut apporter quelques correctifs.
C'est pas qu'il était pas content, c'est qu'on a oublié des choses essentielles dans le contexte du quart de finale aller-retour Lyon-Bordeaux sur l'époque bordelaise. Des précisions super intéressantes. En plus, qu'il veut apporter.
Donc, supporters bordelais, prenez rendez-vous demain soir. On parlera de votre club dans l'after. Bonne nuit à tous et à demain soir. 22h. Bonne nuit.